Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, donc, vous êtes en direct avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, cet espace est réservé justement pour vous, chers citoyens, afin que la parole vous revienne. Et sachez bien que vos témoignages dans cette rubrique demeurent forcément la juste réponse à celles et ceux qui ne veulent pas reconnaître que notre société civile souffre visiblement d'injustice. Alors voilà que tout le monde rejette les injustices, les abus de pouvoir, mais rares celles et ceux qui vont au front pour changer les choses. Et c'est possible. Donc il faut d'abord croire à la possibilité du changement et le reste va sûrement suivre. Avant d'être victime moi-même du système, je pensais que ce qui arrive aux autres ne m'arrivera pas. Mais c'était faux. L'injustice est justement aveugle. Elle vous surprend alors que vous êtes ailleurs dans votre univers, dans votre naïveté. Elle vous surprend là où vous ne le pensez jamais, au plus profond de votre innocence. Donc voilà pourquoi vous ne devrez pas attendre. Votre participation devient donc un moyen de prévention nécessaire. Nous sommes sur les portes d'une grande manifestation contre la brutalité policière qui va se tenir le 15 mars comme d'habitude. Et cette fois à 17h au coin de Maisonneuve et Jean Mans, plus précisément à la place des Arts. Donc ce n'est pas une invitation que je vous lance aujourd'hui, mais plutôt c'est un rappel qu'il est bel et bien de votre devoir, chers citoyens, de participer pacifiquement à cette manifestation qui revendique avant tout le droit à la protection et au respect humain. Donc au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, un militant d'UMAJ, un mouvement en défense des droits de la personne face au système judiciaire. À mon côté, j'ai mon collègue Roland Cazès, aussi un militant d'UMAJ. Donc, il va nous dire qu'est-ce qu'il pense de cette journée, de sa présence et de notre importance, de notre participation. Il va nous parler un petit peu, peut-être aussi, des manifestations qui ont précédé celle qui va venir prochainement. Merci Roland d'être avec nous aujourd'hui. Pour nous rejoindre au bureau, rappelez-nous au 514-273-4302 ou bien nous écrire info@commercialmaj-quebec.com et nous sommes là pour vous, chers citoyens. N'hésitez pas de nous contacter, notre équipe peut même se déplacer à votre rencontre afin que votre témoignage sera entendu publiquement. Restez à l'écoute, après notre thème musical, nous revenons à notre sujet d'aujourd'hui, le 15 mars, un appel contre la brutalité policière.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà donc, rebonjour mes chères auditrices, chers auditeurs. Pourquoi vous devrez participer à cette manifestation qui se tiendra annuellement tous les 15 du mois de mars? Donc il y a peut-être au moins deux principaux raisons. La première, c'est que cette manifestation ne peut être l'œuvre de qui que ce soit à part vous, vous mes chers citoyens, vous le public, cette plateforme qui constitue le tissu social. Ne pensez surtout pas que les gouvernements, ces institutions, les gens qui jouissent de fortune et d'appui vont faire partie de ce cortège de revendications. Vous qui avez la certitude, comme nous, que parmi les agents de la SPVM, il y a des vrais criminels au sens propre du mot, des criminels qui utilisent le pouvoir pour justement accentuer leurs crimes. Parmi les agents de la SPVM, je vous assure qu'il y a pire que les gangs de rue. Donc la différence, c'est que les gangs de rue sont faciles d'être repérés, mais les agents de la SPVM, à défaut de cette tenue de bordel, ils passent inaperçus. À défaut de leur prestige de pouvoir, ils passent à chaque fois inaperçus. C'est drôle, comme devant certains juges, ils passent aussi inaperçus. Donc d'ailleurs, c'est rare où la parole ou le témoignage d'un policier est mis en doute, et pourtant les purs menteurs que j'ai constatés depuis que je m'intéresse au dossier des victimes sont des policiers, des enquêteurs de la SPVM. Donc, parmi ces policiers qui sont visés par la manifestation du 15 mars, il y a celles et ceux qui ne sont simplement pas compétents. Donc, ils se sont retrouvés dans cette fonction par erreur de contrôle, si je peux me permettre. Donc, ils ont passé à travers les mailles des filets, justement, à des moments où la garde était baissée. Ou à travers la négligence, si je peux aussi le dire. D'autres sont simplement des lâches. C'est un comportement qui existe malheureusement chez les humains, et les personnes qui sont touchées par cette infortune cherchent dans la plupart du temps à prouver le contraire. Alors si vous les engagez dans l'appareil policière, ils vont faire, ou plutôt ils vont œuvrer par défaut. Donc en s'amusant un jour, dont j'avais fait une recherche sur internet, et j'étais surpris de voir qu'il y avait toutes sortes de criminalités graves et moins graves dans les rangs des différents corps policiers. Donc il y a des fraudeurs, il y a des trafiquants, il y a des vendeurs de drogue, il y a des voleurs de toutes sortes, il y a des violeurs de femmes et d'enfants, et des proxénètes à tout niveau. Donc il y a des batteurs de femmes, il y a des assassins. Bref, il y a tout ce que vous cherchez de criminel chez les policiers. Et ce n'est pas étrange, c'est tout à fait logique Chez l'homme, le crime existe depuis l'aube du temps et comme les policiers sont des êtres humains comme nous, il ne faut pas rejeter cette information. Au contraire, il faut l'affirmer et à partir de cette information réelle, il faut doubler prudence et travailler. Donc l'idée qu'un policier est parfait est la pure des choses à croire. Avec cette idée, vous allez devenir complice chaque fois qu'un policier commettrait un crime. Vous êtes vraiment complice puisque vous l'acquittez de son crime avant même qu'un juge se prononcera à son endroit. Il faut toujours garder l'idée que l'être humain est plus contrôlé par des lois, quelle que soit la nature de ces lois. Et quand un policier jouisse de son pouvoir, la loi, il s'y perd considérablement sa taille devant lui. Autrement dit, le pouvoir n'est pas innocent non plus. Sortir sur la place publique et dénoncer les abus de pouvoir et les injustices est le moyen, à mon avis, le plus efficace pour alerter nos politiciens. Ces derniers ne sont pas nécessairement victimes et de ce sens, ils ne peuvent pas apercevoir le degré de la gravité comme c'est le cas d'une personne qui a vécu ou pour le moins était témoin d'une brutalité ou d'abus de pouvoir. Donc, première conclusion. Les policiers ne viennent pas d'une autre planète, ils sont loin d'être parfaits. Parmi eux, il existe les purs criminels qu'ils peuvent avoir dans une société. Dénoncer ces criminels est le plus grand service qu'un citoyen peut rendre à la société et aux policiers impliqués eux-mêmes. Une manifestation comme celle du 15 mars devient une balise de stop pour les abuseurs ou pour les abus d'accélération de pouvoir. Vous participez à remettre de l'ordre dans la société. Voilà pourquoi votre participation à cette manifestation devient nécessaire, voire même obligatoire. Bien sûr, une manifestation pacifique et intelligente, vous ne pouvez pas dénoncer la brutalité par la brutalité, et surtout dans une société comme la nôtre, où la démocratie est un droit fondamental de société. Voilà, donc j'ai eu un peu plus loin que cette manifestation ne peut être que l'œuvre du public. Et la seconde chose, c'est que l'utilité et l'impact d'une telle manifestation va ralentir, sinon une forte prévention de la brutalité policière et nous allons malheureusement jamais finir avec la brutalité, mais pour le moins essayer de la minimiser. Parmi les revendications des citoyens, il y a l'impunité de ces policiers fautifs, sinon criminels. Il est temps que l'État mette fin à cette impunité. Il est temps aussi que la justice se réveille et s'applique pour tous. Il est temps de doubler la surveillance et de prendre en considération les plaintes des citoyens victimes d'abus de pouvoir, il faut les croire. Il est temps aussi d'abolir la déontologie policière, cette figure qui se présente, ou plutôt aussi qui ne représente rien, sinon aggraver l'insécurité et violer la confiance du citoyen, abolir cette institution et faire renaître une institution basée et forcée par la participation de comités de citoyens de différentes classes. Je l'ai déjà dit, la déontologie policière est un échec aggravant et que l'État continue de nourrir en faisant semblant d'ignorer son incapacité et son impartialité. Donc, est un signal alarmant de la déficience de notre système. Je pense qu'il est temps de remettre les clés de cette institution aux citoyens et vous allez voir que beaucoup de choses vont rapidement changer. C'est le plus grand cadeau que l'État peut offrir à un policier et aux citoyens en même temps. Écoutez, maintenant, monsieur maître Alain Arsenault, l'un des avocats qui ont participé à l'enquête publique sur la mort de Freddy Vignova, ce jeune Québécois d'origine andérienne, abattu injustement par l'agent de l'SPVM Jean-Loup Lapointe le mois d'août 2008. Monsieur Alain Arsenault, qui défendait l'un des victimes de cette fusillade, était l'un des avocats les plus remarquables au cours de cette enquête. Et vu qu'il est considéré comme un spécialiste en matière de la brutalité policière, nous l'avons rencontré dans son bureau, écoutant son témoignage.
Bon, concernant le phénomène de la brutalité policière, il existe et il existera toujours la brutalité policière. Peu importe les lois qu'on peut faire, qu'on a déjà, qui ne sont pas dénuées d'un certain bon sens. Il y a toujours des améliorations à faire des lois, mais les lois sont appliquées par des êtres humains et ça donne, à un certain moment donné, des abus. On a eu des dossiers récemment où on peut voir qu'il y a eu une grande force utilisée à titre d'exemple, une force démesurée,
excessive
dans des situations où aucune force n'était nécessaire. Donc, le phénomène de brutalité policière existe et existera toujours parce qu'il n'y a personne de parfait. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Ça va toujours exister. L'application de la loi est toujours une situation difficile, parfois dans des contextes difficiles, parfois dans des contextes moins difficiles, mais où des gens abusent de leur pouvoir, tout simplement. Fait que ce phénomène-là ne sera jamais éradiqué totalement qu'on mette les meilleures lois possibles, les meilleures contraintes, le meilleur encadrement. Non, il y en aura toujours.
Et dans toutes les sociétés.
Et dans toutes les sociétés. Et je pense qu'on peut dire qu'au Québec, si on compare à un autre pays X, on est peut-être mieux équipé en termes de protection des victimes de brutalité policière. C'est sûr, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ici. Des erreurs judiciaires, il y en a ici aussi, des gens totalement et justement condamnés, emprisonnés en prison. Ça existe, ça. Des erreurs sur la personne, des choses comme ça, ça existe. On a un bon système, mais il n'est pas infaillible. Il n'y a aucun système de justice infaillible. Et surtout quand on demande l'application de ce système de justice à des individus, ben parfois il y a des dérapages. Et ça se fait à tous les jours, ou je ne sais pas, ou à toutes les semaines, je ne sais pas, à tous les mois, mais régulièrement.
Régulièrement, voilà.
Quant aux solutions, la question de ces solutions est relativement simple. C'est que ça prend toujours un système de contrôle des activités policières qui soit au-dessus de tout soupçon, qui soit crédible. Juste l'exemple de ce qu'on appelle la politique ministérielle, c'est-à-dire des enquêtes sur des morts dans des postes de police aux mains de la police. Qu'est-ce que vous voulez? C'est fait par d'autres policiers. Puis les policiers se présument entre eux autres être des gens honnêtes. Fait qu'on n'enquête pas un policier qui a tiré 4 balles, je fais référence à l'affaire Villanueva, comme quelqu'un qui n'est pas policier qui aurait tiré lui aussi 4 balles. Hein? C'est simple. Or, peu importe, on n'est pas au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on doit avoir des privilèges. Ils doivent enquêter. Donc, ça prend un système qui n'est pas le système actuel. Quand je vous disais, on a des lois qui sont bonnes, mais il faut les améliorer. Bon, ben, entre autres, sur le système d'enquête des policiers, ça prend quelque chose qui soit crédible, qui soit transparent et qui soit public, qui soit connu, hein, qui soit impartial. Et c'est pas parce que des policiers enquêtent sur d'autres policiers que ce système est justement crédible, transparent et impartial. Donc, il faut améliorer, puis il faut toujours améliorer nos lois. Il faut pas se contenter de qu'est-ce qu'on a, il faut améliorer la situation.
Oui, M. Arsenault, nous, on reproche à la déontologie policière qu'elle ne remplit pas sa tâche complètement. Qu'est-ce que avez-vous quelque chose à dire?
Ben, moi, je pense que la déontologie... Moi, je vais vous dire, je vais rarement faire des plaintes en déontologie policière. Je trouve que c'est un système qui donne rien ou qui donne très peu. J'y ai été récemment, ça faisait au moins 5, 6, 7 ans que j'avais pas été au bureau du commissaire en déontologie policière.
Découragé ou...
Je suis sorti de là un peu découragé pour une raison très simple, c'est que l'enquêteur qui posait des questions, à un moment donné, il y a eu une ambiguïté dans ses questions que j'ai voulu l'aider. Hein? J'étais accompagné de McLean, j'ai dit, je pense qu'il y a une ambiguïté... Et c'était tout de suite, taisez-vous, vous entravez une enquête du commissaire à la déontologie policière. J'ai rigolé, là, je me suis dit, où on est? On est là pour aider les gens, puis les autres, ils ont un cadre, et en dehors du cadre, il n'y a rien qui fonctionne. Et un avocat, c'est en dehors du cadre. Donc, c'est un entrave. Ça, c'est juste l'illustration, à mon sens, de « on n'a pas besoin de vous autres ».
Voilà.
Et ça donne rien à déontologie policière. Le policier, quelqu'un est victime de brutalité policière, il se fait casser une jambe, en tout cas, peu importe, et le policier va avoir quelques jours de suspension. C'est quasiment un encouragement à la chose. Le système n'est pas crédible. Qui sont les enquêteurs? Généralement d'anciens policiers, qui ont une attitude de policier. Fait que, moi, je dis aux gens, allez-y, parce que si vous voulez y aller, mais demandez-moi pas d'y aller avec vous. Je ne veux surtout pas perdre mon temps.
Oui, M. Arsenault, peut-être une dernière question. Nous avons une émission de radio, on a pensé comme ça de faire inviter les témoins, les victimes, et dénoncer la brutalité policière. À votre avis, pensez-vous que ce système-là ou cette voie-là peut amener quelque part à quelque chose?
Ben, c'est évident qu'il y a différents moyens pour dénoncer la situation. Et je vous dirais, tous les moyens sont bons. Peu importe lequel, la dénonciation que vous proposez, c'est un bon moyen. Des gens qui veulent faire des plaintes en déontologie policière, c'est un bon moyen. Mais il ne faut surtout pas penser qu'un moyen va amener des choses, qui va changer le système, qui va faire en sorte que c'est pas un moyen. Il n'y a pas une solution. Et je pense que l'ensemble des solutions n'est pas nécessairement la solution. C'est un combat tous les jours qu'il faut faire, que les gens peuvent faire, que les gens doivent faire. Et ça peut amener des choses. Souvent, ça prend des événements extraordinaires. Je reviens au dossier de Villanueva. Qu'est-ce que le dossier de Villanueva a donné? Ben, a donné un rapport du protecteur du citoyen qui a dénoncé le système d'enquête des policiers sur des policiers. Avant, il n'y avait jamais rien. Mais c'est horrible, qu'est-ce que je vous dis là, parce que ça a pris la mort d'un jeune de 18 ans pour que le protecteur du citoyen fasse quelque chose. Mais la loi n'est pas encore changée pour autant, et la loi n'est pas à la veille de changer compte tenu des mesures dilatoires de la Ville de Montréal et de la Fraternité des policiers de Montréal. Malgré un rapport du protecteur du citoyen il y a presque un an, il ne s'est rien passé à ce niveau-là. Donc, il y a des citoyens qui doivent revendiquer des choses, qui doivent intervenir dans des médias, et ils doivent dire, ben là, ça doit changer, tout ça. Donc, c'est un combat sans fin. Il faut toujours recommencer.
Mais ma dernière question, Maître Arsenault. Vous avez utilisé le mot combat. Avez-vous un mot aujourd'hui aux citoyens, surtout aux victimes qui sont dans ce combat-là et en continuité?
Mais moi, tout ce que je peux leur dire, c'est de les encourager à continuer, mais tout en restant très lucide.
Voilà. Merci bien, Maître Arsenault.
Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, après ce témoignage, on prendra une pause musicale suivie par la pause publicitaire et nous revenons avec notre sujet, le 15 mars, la journée internationale contre la brutalité policière.
J'ai compris que les années, ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelly sort à 7 ans, le 20 septembre, que chaque jour, les hommes s'autodétruisent à la hache, que pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête, ici la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes, et dans 10 ans, le kilo de cam sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent, et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent, que j'avance pas, que leur justice ralentit, que la France n'est pas si belle, ma prof d'histoire a menti, que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix, c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses-poursuites dans la ville, mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie,
I'll join everyone. When I die, these feet carry me far. Oh, my body, oh, so tired. Mouth is dry, hardly speak. Spirit, rise in me. I swear, forever is just a minute to me. And I'll take everything.
Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes.
In this life,
dans cette vie,
I'll join.
Y allait pas, d'où venait le mal dans nos yeux, que les voitures qui prenaient feu ne rentraient pas dans vos urnes, que tous les jours des amis meurent au cachot, comment certains sont prêts à tout pour obtenir un plat chaud. J'ai compris que l'être humain ne fait rien d'autre que saigner, que dans la vie se faire du mal est plus facile que s'aimer. que les voisins, c'est pas les filles d'à côté. Que dans le pays des droits de l'homme, des familles vivent à l'hôtel. Comprenez le poids des mots, des fois la vie fout le cafard. Les voleurs se font pincer, mais les violeurs ont le bafard. Que dans la vie, j'ai toujours senti ce gêne. À quel point j'ai grave du mal à dire je t'aime à ceux que j'aime. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie,
I'll join everyone and understand.
Centre-Ville vous fait des offres alléchantes sur sa page Facebook. Misez sur un prix qui vous intéresse et économisez. Les fonds amassés servent au financement de votre radio à but non lucratif. Recherchez la page Facebook de Radio Centre-Ville et partagez la nouvelle avec vos amis.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836 ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centre-Ville.
102.3 FM, Radio Centre-Ville, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Venez chez Lida.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, nous allons maintenant tourner vers mon collègue Roland Cazès. Et Roland, peut-être la première question que je poserai, est-ce que vous conseillez les citoyens de participer à cette manifestation qui se tiendra le 15 mars à 17h devant la Place des Arts?
Moi, je conseille même aux citoyens de manifester avec respect, naturellement, des personnes, des policiers, parce que le respect est mutuel.
Oui.
Mais moi, je veux que l'on représente en cette journée ce qui s'est passé comme injustice, comme, moi j'appellerais ça une tuerie, un assassinat. Jugez-le comme vous voulez, moi c'est un assassinat. On ne tue pas un jeune pour une raison quelconque de 18 ans. Je m'excuse.
Ouais, mais attention, Roland, je vais juste vous dire que le 15 mars, il n'est pas tenu spécialement pour l'assassinat de Freddy Vignova. Mais
moi, j'invite un juge ou un maire à se mettre une cagoule sur la tête et à prendre une pancarte pour manifester dans la rue. Et il va juger ses policiers d'après le rendement qu'il verra. Et si les policiers ne l'agressent pas parce qu'il a une pancarte qui leur déplaît,
oui. Ah, là,
moment-là, je ne nommerai pas juge, mais je nommerai Premier ministre du Québec, juge-là. Mais ça serait l'idéal, que ces gens, qu'un ministre ou un député se mettent une cagoule avec un juge, une cagoule sur le visage et défiler avec une pancarte, par exemple, sur la question de Villanueva. Oui. Et s'il n'est pas agressé par la police, je m'appelle plus Roland.
Je veux juste aviser mes chers citoyens comme quoi Roland a participé à la manifestation du 15 mars l'an dernier et puis malheureusement il était brutalisé par les policiers pour la seule raison il avait entre les mains la pancarte de Freddy, l'image de Freddy Vignova. Donc les policiers l'ont brutalisé, ils ont saisi sa pancarte, ce qui est illégal. Nous avons, moi j'ai été allé devant le tribunal à cet effet, mais malheureusement nous avons perdu à défaut de prescription. Donc voilà, vous pouvez continuer Roland, mais j'aimerais bien que vous parliez de manière générale, on parle de c'est un cas isolé, je comprends.
Moi ce que je veux essayer d'expliquer...
La revendication c'est clair.
C'est simple. J'avais un respect, et j'espère avoir le respect. Oui. Ce respect est mutuel. La police doit respecter les citoyens, et les citoyens doivent respecter la police.
Oui.
Tous les policiers ne sont pas des ripoux, ne sont pas des pourris. Ils ne sont pas au service de la fraternité, mais ils sont au service de M. le maire Trudel, parce que c'est M. le maire Trudel qui dirige le système de police à Montréal. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'avais un respect, et maintenant... Je n'ai plus confiance aux policiers. On m'a enlevé complètement la confiance. Pourquoi ? Je vois que des policiers sous serment mentent, trichent. Alors je commence à réaliser qu'il y a vraiment des ripoux parmi les policiers, alors que je n'imaginais pas ça avant.
Alors si j'ai bien compris, ça veut dire que vous êtes en train de le dire aujourd'hui, qu'avant l'événement, que vous étiez victime de cet événement-là, vous pensez que les policiers agissaient autrement, quoi.
Ben, écoutez, des policiers qui sont en service théoriquement doivent avoir un carnet de contravention.
Oui.
Ils doivent avoir un stylo sur eux. Alors ils avaient des habits de ninja avec un gros numéro 1, 2, 3 dans le dos, mais ils étaient une cinquantaine avant le numéro 2 ou le numéro 1.
Oui.
Ce que je veux dire, lorsque j'ai demandé le matricule au policier qui m'a maltraité, on m'a dit « Vous le recevrez sur la contravention.
Oui. »
Je n'ai jamais reçu de contravention. Comment ont-ils fait pour avoir mon nom et mon adresse ? Eh bien, ils n'avaient pas de carnet, ils avaient une petite pochette d'allumettes pour relever. mon nom oui. et mon adresse là-dessus.
Oui.
Alors je m'excuse là, un policier en service doit avoir tout l'équipement nécessaire. Oubliez l'habit de ninja là. On n'est pas en Libye là, on n'est pas dans des pays comme ça là, on est dans un pays démocratique. Je sais qu'il y a des voyous, mais que voulez-vous, une manifestation c'est l'image de la société. Oui. Dans notre société nous avons des voyous, des bandits, des... et dans les policiers nous avons des voyous, des bandits, des bâtards
ça,
qui
clair.
Ne respectent oui. pas les personnes de 70 ans comme moi.
Exactement, je signale aussi en même temps que Roland qui a participé à la dernière manifestation du 15 mars. Il est âgé de 70 ans et puis il marchait pacifiquement. Et malheureusement, avec tout ça, il était quand même attaqué par un groupe de policiers qui l'ont, comme je l'ai dit, brutalisé et saisi une pancarte. Et il a reçu des coups, même... vous avez reçu des coups
J'ai reçu des coups de matraque dans les reins. Il le faisait d'une façon hypocrite.
Mais
cette espèce d'animal-là, il nous prend pour du bétail. On n'est pas du bétail, on est des êtres humains, puis on s'élève contre le crime, en définitive. On ne veut pas qu'il y ait du crime non plus contre les policiers, mais on ne veut pas non plus qu'on tue tous nos jeunes parce qu'il est dans notre pays, parce qu'il est noir, parce qu'il est basané, ou parce qu'il est... Écoutez, à ce moment-là, on n'a qu'à pas les laisser rentrer dans le pays si on veut les éliminer, ces gens-là, voyons.
Voilà.
C'est pas une raison, c'est pas une façon de faire.
Non, mais c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire. Mais je reviens aussi, Roland, toujours revient sur cette journée-là. Elle est symbolique, cette journée-là. Et c'est une journée de prévention, c'est une journée de revendication et c'est une journée, c'est un droit aux citoyens de participer. Et pensez-vous que l'État normalement devront ouvrir cette voie-là pour que les citoyens, encourager surtout les citoyens, parce que les citoyens ils ont peur hein, de participer à cette manifestation, à votre avis?
Ou alors ils vont s'armer. Ils vont s'armer, ils vont faire comme les autres, ils vont prendre des pierres, ils vont prendre... Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des policiers qui ont été aspergés de peinture ou qui ont été... Mais moi, j'avais une pancarte que je pouvais à peine tenir de mes deux mains
oui,
et
oui.
ils voulaient me forcer à courir alors oui. que je marchais. Je ne courrais pas avec une pancarte au risque de tomber, de blesser quelqu'un, d'aveugler quelqu'un avec ma pancarte ou quoi oui. que ce soit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je marche normalement avec une pancarte, les deux mains dessus, je ne pouvais faire aucune mauvaise action.
Oui.
Mais il était en train de m'attiser les reins à coups de matraque,
oui.
mais d'une façon hypocrite. Et lorsque oui. je me suis retourné vers lui, je lui ai dit « arrête de me taper hypocritement,
oui.
mais fais-le en face afin que les témoins... » Mais savez-vous une chose, c'est assez vicieux leur affaire, c'est qu'il m'a dit, le policier, « je te surveille depuis que tu es décollé de la station de métro ».
Mais est-ce que c'était vous qui t'es visé ou bien la pancarte que,
C'était la pancarte.
Oui,
parce que moi, je suis une personne bien ordinaire
oui.
qui porte une pancarte, qui... J'ai des enfants et je ne voudrais pas que mes enfants soient tués par un policier parce que monsieur trouve que mon jeune, il a le nez trop long, ou bien il ressemble à un juif, ou il ressemble à un arabe, où il ressemble à un Tzigane ou un Romain ou un Rome. Vous comprenez ce que je veux
ouais,
dire
ben, je
Alors moi j'ai des enfants et je souhaite que mes enfants vivent jusqu'à l'âge de la retraite et puis qu'ils ouais. puissent profiter de la vie. Mais moi quand tu as un enfant de 18 ans, moi ça m'insulte. Et quand on ouais. trouve que le policier n'est pas coupable, mais c'est grave.
C'est encore plus grave. Mais là,
c'est très grave.
Mais vous faites toujours... je veux juste qu'on revienne. Peut-être c'est un cas qui est réel. Peut-être que la mort de Freddy Vigneault, ça a accentué un petit peu plus le rythme.
Moi, je crois que les policiers sont mal formés. Je m'excuse.
Ouais.
Ils sont mal formés, ces gens-là.
Mais
on ne tire pas comme ça sur un... Oh, écoutez, dans l'armée, on vous entraîne. Vous devez faire les sommations avant de tirer.
Ouais.
Halte-là et arrêtez où je tire.
Oui, oui.
Et après, on tire.
Ouais.
Maintenant, si on est agressé par une personne armée, il est naturel, œil pour œil, dent pour dent.
Ouais.
Je suis entièrement d'accord. Mais lorsque des gens, par des paroles ou autres, peuvent blesser un policier, puis que monsieur, dans son orgueil, est blessé, puis qu'il descend, qu'il joue un peu le rôle de Lucky Luke, là, qui tire plus vite que son ombre, je m'excuse, là.
Non, mais là ça,
Les enquêtes sont où?
Je pense qu'on a tous compris que, comme quoi, c'est une sorte de panique. Donc, le policier en question que vous êtes en train de remettre...
S'il a paniqué, ça veut dire qu'il est mal formé.
Oui.
Il ne mérite pas de porter une arme.
Voilà, il est
on devrait le mettre à la circulation avec une matraque, là, puis tiens, faire la circulation, point final, plus d'armes.
Il ne devra pas être dans le corps policier, oui.
Ben non, c'est grave, c'est grave ça, parce que si on met des policiers qui ne sont pas qualifiés et qui agissent de cette façon-là, moi j'ai vu une policière une fois me demander d'arrêter de fumer dans la rue. Ah oui, puis je lui ai dit, madame, je paye des taxes dans la rue, j'ai le droit, dans un commerce, je n'ai pas le droit. Mais ce qu'il vous en déplaise, tenez-vous à trois pieds de moi, je suis libre de fumer.
Vous la dérangez, c'est ça?
Elle, ça l'a dérangée, mais elle me collait au visage, vous savez, comme les autochtones ont fait, de coller le soldat au visage. Ben écoutez, là, si vous voulez mettre votre visage devant mon nez pendant que je fume, là, ça vous regarde.
Ben écoutez, Roland, on va faire une petite pause musicale, et puis on va revenir avec votre témoignage du jour.
Bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Vite imposé l'islam des tyrans.
Cela ont-ils jamais lié le courant.
Redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations. La chair à canon, deux étrangers au fond du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au fond du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés. Sur l'autel de la violence éternelle.
Donc voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Je vous informe toujours que la tenue de la manifestation contre la brutalité policière, la journée internationale, se tiendra devant la place des Arts ce 15-là à 17h. Donc je reviens toujours à mon entrevue avec Monsieur Roland Cazès. Roland, est-ce que pouvez-vous me dire quel est le rôle réellement d'un policier dans une société?
Écoutez, à part de mettre des billets de stationnement est-ce que ces policiers sont capables de signaler, par exemple, les nids de poules géantes, ou on dira des nids d'autruches, où c'est dangereux? Prenez la rue Saint-Laurent, Fairmont, Madame la mairesse, Madame l'opposition, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, allez donc sur la rue Vermont et Saint-Laurent et vous allez comprendre, vous avez le lac et vous avez le gros trou. Est-ce que le policier qui a mis le billet sur la Volvo qui était stationnée devant le poste de radio, est-ce qu'il a signalé le nid d'autruche qui est dangereux pour avoir des accidents? Non, mais je suis sûr qu'il l'a pas fait.
Mais Roland, reviens, vous m'avez pas répondu à ma question. Quel est le rôle justement?
Le rôle du policier, c'est de faire ça, de signaler à la ville le danger qu'il y a là, afin que les employés de la ville viennent faire le nécessaire pour protéger les citoyens. Le policier est là pour protéger les citoyens.
Voilà, c'est ça.
Et non pas pour les abattre et les tirer, sauf si c'est des bandits évadés de prison, des gangsters qui font un hold-up, qui sont armés, et des gangs de rue, là, ou des trafiquants.
Donc, si j'ai bien compris, que le policier, normalement, c'est lui de faire l'ordre, c'est ça?
Faire régner l'ordre.
Régler l'ordre, oui. Mais avec de l'ordre, pas avec l'anarchie.
Voilà. L'anarchie appelle l'anarchie. L'ordre appelle l'ordre. Si vous semez du blé, vous récoltez du blé. Si vous semez du maïs, vous récoltez du maïs. C'est simple.
Maintenant, je reviens toujours à la question de toujours notre journée, le 15 mars, quant à la brutalité policière. Vous, à votre avis, vous conseillez tout le monde de participer, et j'ai bien compris, pacifiquement.
Je conseille au monde de participer.
C'est ça, l'importance de la participation des citoyens pour vous.
De respecter l'ordre.
Ouais.
Mais moi, j'ai vu une chose, parce que j'ai quand même les stratégies militaires, là. J'ai pas été un con toute ma vie, là. J'ai pas porté une pancarte toute ma vie.
Ouais.
Et j'ai fait des stratégies militaires, et la place où la dernière fois, la dernière manifestation, les policiers nous ont attaqués, c'était une rue qui était montante. Donc, au point de vue stratégie militaire, on le sait que c'est plus difficile de monter une rue à 90 degrés.
Roland, c'est pas les policiers qui ont choisi l'endroit. Hein.
Non, oui. Ils l'ont choisi. Et ils ont envoyé les policiers dans l'autre sens afin de fermer le monde et de provoquer le monde et de frapper sur le monde. Je vous le dis, ils ont chassé même David Gentile de RDI. Et je lui ai dit à Monsieur Gentile, et si Monsieur Gentile est un bon journaliste, qu'il vienne à la cour témoigner, comme quoi je lui ai dit, Monsieur Gentile, vous nous abandonnez, vous ne restez pas. Il dit, les policiers me chassent.
Oui.
Les policiers n'ont pas chassé la poste de télévision qui en forme radio Canada.
Oui.
Ils n'ont pas l'autorité là-dessus, ou alors on est dans une dictature.
Oui.
Non, on doit laisser libre. Et justement, ça prouve à ce moment-là que de chasser les journalistes et de les renvoyer, la télévision et autres, ça veut dire qu'on a l'intention de frapper le monde et qu'on ne veut pas de témoignages.
C'est-à-dire que tu es en train de le dire aussi que de la part du policier, il y a une sorte d'intimidation pour les
Exactement.
Citoyens, pour décourager la participation des manifestants, c'est ça?
Exactement.
Oui.
Exactement. Non seulement ils veulent les effrayer, ils les agressent, mais en secret, d'une façon de dire, ah ben, ils l'ont provoqué, ils m'ont menacé. Moi, j'avais une pancarte, je vous le dis, quand je me suis retourné, elle était à 30 degrés vis-à-vis de mon corps, c'est normal, une pancarte dans cette position. Et la représentante, parce qu'ils se font représenter, ils ne viennent pas à la cour, ces cochons-là. Parce que c'est des cochons, ça. Parce qu'à cause d'eux, nous allons avoir des voyous pendant 20 ans, 30 ans, s'ils agissent de cette façon-là. Ils sèment la mauvaise graine de cette façon. Ils doivent respecter les citoyens et marcher avec eux et dire, écoutez, l'erreur est humaine. Comme on dit en latin, errora humana. Ça, c'est évident. Tout le monde peut faire une erreur dans la vie, mais on n'a pas le droit de recommencer cette erreur plusieurs fois.
Ouais.
Parce que là, on devient des assassins.
Est-ce que vous allez être, le 15 mars, vous participerez
dans
la manifestation?
Bien sûr que je vais être là.
Ouais.
Mais je vais avoir un caméraman derrière moi qui va filmer tout ce qui va se passer. Et si je défie les policiers de m'attaquer. Parce que là, on va rire. N'oubliez pas ça, j'ai été dans les commandos, je suis capable.
Mais là...
Même à 70 ans.
Mais Roland, il faut faire attention parce que vous venez de dire que...
Non, ce n'est pas une provocation, c'est un avertissement.
Non, mais il ne faut jamais aller avec la brutalité
Je ne vais pas avec la brutalité, mais s'ils ont le moindre geste contre moi, ça va être le dernier qu'ils auront. Je vous le garantis.
Okay.
Personne n'a le droit de me toucher dans un pays démocratique. On n'est pas en Libye, on n'est pas en Égypte ou en Tunisie là avec des dictateurs. Et si c'est ça, moi je demande qu'il y ait un préfet de police, et non plus un maire qui dirige la police, mais un préfet de police formé, qui sait ce que c'est que la police et qui peut sanctionner ses policiers lorsqu'ils se comportent mal.
Oui. Mais est-ce que vous pensez-vous pas aussi que l'ordre vient un petit peu plus haut
L'ordre vient de la fraternité que j'ai appelée déjà la confrérie politique. policière. La fraternité policière, c'est une confrérie. Il nous faut un préfet de police qui va donner les ordres et non plus la fraternité qui va dire aux policiers quoi faire, éliminer une pancarte à cause de Villanueva, patatim, patata. Ouais. C'est ça qu'il ne faut pas.
Mais Roland, pouvez-vous dire au moins aux citoyens quelques mots qui vont les encourager pour venir, hein?
Moi, je dis, protégez vos enfants dès maintenant. Si vous ne manifestez pas, le jour où vos enfants passeront au cash, à ce moment-là, vous vous plaindrez.
Ouais.
Mais il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut que vous manifestiez pour qu'on ait une meilleure police, une meilleure formation de ces policiers.
Oui. Mais, maintenant, j'aimerais bien, vous savez que la seule institution qui peut tenir en garde un petit peu nos policiers, c'est la déontologie policière. Et malheureusement, fait échec. C'est un vrai échec. Qu'est-ce que vous pensez?
Moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Savez-vous, nous devrions avoir des tribunaux spéciaux,
ouais,
comme le tribunal de la corruption, avec des citoyens comme jury, non pas une décision d'un juge, avec un jury, oui, de citoyens. Pourquoi on est bon pour voter pour ces gens-là et on n'est pas bon pour être jury?
Tout à fait.
Pour les déplacer quand ils sont corrompus, alors qu'on les a élus en toute confiance et après on se rend compte qu'ils sont des corrompus. Pourquoi que le citoyen n'aurait pas le droit de le foutre dehors? Ce que je veux dire démocratiquement, oui, avec naturellement les preuves accumulées,
oui,
ce que je veux dire, un préfet de police, ça serait une personne formée qui aurait la classification nécessaire pour dire aux policiers, vous, vous êtes mal formé, vous allez me faire du cours du soir pour essayer de vous
rattraper.
Oui. Et oui, oui, c'est ça qu'il faudrait. Mais là, hélas, non, on a un maire qui ne connaît pas sa job. C'est pas sa job d'être le chef de la police là, de Montréal.
Mais revenons à la...
Voyons le métro. Oui. C'est encore les maires qui organisent ça. Ça marche bien le métro?
Oui.
Ça marche bien le transport en commun? Ben, posez-vous la question.
Mais Roland, revenons toujours à la déontologie
policière.
C'est pas leur job. Nous avons, et nous ne sommes pas les seuls, à proposer comme quoi ça revient au rôle du citoyen de participer à la déontologie,
exactement,
policière, justement, pour mettre un peu de lumière et pour mettre une garde plus surveillée.
Eh oui, parce que nous avons tous des enfants. Moi, ils sont grands maintenant. Mais un jour, vous, les jeunes, vous aurez des enfants. Est-ce que ça vous plairait, vous, qu'un policier, pour le gars qui jette des dés à terre et puis qui le tire, là, de 3 balles, là, parce qu'il a jeté des dés à terre, il joue, il gamble, ou je sais pas quoi. Mais si ces policiers sont avides de tuer du monde qui est gambleur, qu'ils aillent dans un casino, il y en a des milliers qui vont jouer au casino et qui les attendent à la sortie, puis qui les tirent. Ça va nous rendre service, peut-être. On aura moins de gambleurs, et puis de malades, et puis de trafiquants. Ouais. Surtout des blanchisseurs d'argent.
Oui. Donc, si j'ai bien compris, Roland, vous êtes avec nous pour l'idée que...
Il faut que ça change dans notre pays.
Ah,
on a un beau pays, puis il ne faut pas l'abîmer.
Voilà.
Il ne faut pas l'abîmer avec des corrompus, avec des policiers croches, des ripoux, des députés, des ministres qui s'en foutent, des maires qui sont complètement hors ligne, complètement. Écoutez, il faut que ça, c'est comme le sport. Il faut que ça soit sain. Il ne faut pas que ça soit brutal, il ne faut pas que ça soit violent, il faut que ça soit sain.
Oui, le message
c'est
bien.
C'est pas des combats ultimes, là, qu'on fait.
Non, tout à fait. Le message est très clair à propos de la brutalité, la violence et tout. Et pouvez-vous nous dire un dernier mot, au moins, à propos de cette journée-là?
Moi, j'ai été marqué par cette journée, définitivement. J'ai été paralysé complètement du côté gauche. On m'a transporté à l'hôpital. On a prétendu que c'était ci, on a prétendu que c'était là. Mais mes reins, moi, j'avais un gros hématome, oui, bleu. Et ma foi, à mon âge, c'est facile d'avoir des hématomes, hein. On donne des coups. Écoutez, à 70 ans, c'est normal qu'on n'a pas 30 ans. J'ai eu 30 ans aussi. Les bleus, j'en avais pas beaucoup sur le corps. Mais ce que j'essaye d'expliquer, il faut, une fois pour toutes, pénaliser ces policiers qui usent la violence envers le monde. Ils ne sont pas là pour être les justiciers. Ils sont là pour amener les gens à la cour devant un juge qui va être jugé. Moi, j'aurais voulu recevoir ce billet-là, cette contravention,
donc,
et me présenter,
oui,
en cour.
Mais finalement, Roland, on va être certain que la brutalité policière, elle ne s'effacera jamais dans notre société. C'est un fait qui va rester et qui va durer. Mais peut-être la participation et les revendications vont faire un petit peu minimiser, vont même ralentir les pas un petit peu des abuseurs. Je pense que c'est une bonne conclusion, si je ne me trompe pas.
Oui, moi j'estime, et puis je souhaite de tout cœur que l'on pénalise les policiers, qu'on leur donne des bons points comme les enfants à l'école et puis des mauvais points quand ils se comportent mal.
Ouais, tout à fait.
Parce que, écoutez, tout de même, c'est des vies. Ils ne sont pas des assassins qu'on met là.
Merci Roland. Donc on va faire une pause musicale, mes chères auditrices, chers auditeurs, et on va en revenir avec le mot de fin.
repère. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. Et j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, je ne sais pas. Je voulais juste marcher sur moi. Ce que je fais là, moi, je ne sais pas. Je pense à toi depuis le million. Le monde forêt abattu, même sous la mitraille et le fer, moi je n'aurais rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je ne sais pas. Je voulais juste marcher.
Voilà donc, mes chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes rendus à la fin de cette émission. Permettez-moi de remercier Monsieur Roland Cazès pour son témoignage. Remercie aussi Maître Alain Arsenault pour son témoignage aussi. Merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Merci à notre technicien de son, Madame Marion Longuet, à moi. J'attends vos appels et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À vendredi prochain, à la même heure.
Du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel. venez chez Lidor.
L'endroit à Montréal où vous procurez les matelas orthopédiques en exclusivité. Les vrais, les originaux, faits au Québec. Chez Lidor, ils sont simplement des spécialistes du matelas à des prix qui ne vous empêcheront pas de dormir.
Venez voir l'expert Lidor.
Oui, venez chez Lidor. Comparez et jugez. L'expert en matelas, c'est Lidor. 65 52 Boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Adoramique!
Montre-toi donc, diplodocus, pas moi, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale. Aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Mars est le mois de l'arthrite juvénile. L'arthrite n'est pas seulement une maladie de personnes âgées. Au pays, elle frappe un enfant de moins de 16 ans sur 1000. Faites un don à la Société de l'arthrite pour financer la recherche et appuyer les familles touchées par l'arthrite juvénile. Visitez arthrite.ca.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être?
Radio Centre-Ville vous sert un savoureux cocktail musical.
Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.